RMC.
Here is the commissioner of the NBA, Adam Silver.
With the first pick in the 2023 NBA Draft, the San Antonio Spurs select Victor Wembanyama.
Basket time.
C'est que la draft, c'est qu'un début, c'est pas du tout l'aboutissement.
Kylian Vérove.
Et si c'était lui, le premier Français à être sélectionné cette année à la Draft NBA ? Ce prospect qui, au sortir du Pôle France avec un an d'avance, a préféré poser ses valises en Allemagne plutôt que dans le Rhône. Celui qui a depuis profité des installations de l'une des pépinières de jeunes talents les plus réputés afin de se faire un nom et une place aux yeux des scouts NBA. Et si c'était lui, Noah Essengue.
They lead 5-3 as Sarah throws an alley-oop and Noah Essengue says, watch me fly. He takes flight and slams that ball in. Senge, what a pass that is! And the jam to boot! Beautiful pass again from the Frenchman. Senge strokes it on right. Double teamed here. Herkenhoff thinks about it. Backdoor cut and Senge!
Shot clock down. Yeah, nice spin and jam from Senge.
Under the basket, easy look, Senge!
Je vous prends pas par surprise, on prend la même équipe et on recommence avec moi pour parler de Noah Essengue, Félix Gabory, Thomas Breton du Média Envergure. Bonjour messieurs.
Salut tout le monde.
Ça va ? Tout va bien ?
Tout va bien, on a hâte de cette draft. Hein.
Bien sûr, on a hâte, on se rapproche de plus en plus. C'est le dernier épisode de ces podcasts spéciaux français à la Draft NBA 2025. On a quand même une belle cuvée, Thomas, qui nous attend.
Franchement, on a une belle cuvée. Comme on le voit, 5 Français quasiment attendus au premier tour. Un énorme premier choix avec Cooper Flagg. Une draft assez dense en petite entrée de l'année prochaine. Donc vraiment très très excitant à suivre. Demande à moi maintenant.
Allons-y sur Noah Essengue, évidemment, le Français qui hype le plus les scouts NBA.
RMC Basket Time, le profil du prospect.
Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de Noah Essengue, Félix, est-ce que tu peux nous faire un petit tour d'horizon du physique et du profil de jeu de ce joueur, s'il te plaît ?
Alors, il a fêté ses 18 ans le 18 décembre, ce qui fait de lui le deuxième plus jeune joueur de cette draft, juste derrière le phénomène Cooper Flagg, qui est né 3 jours après lui. On est sur un joueur longiligne, un poste 4, d'environ 2m6, 2m8, ça dépend un peu des données qu'on peut récolter, pour près de 95 kilos aux dernières nouvelles. Au niveau de la taille, par exemple, on est à peu près sur un joueur comme Paolo Banchero pour la NBA actuelle. Son profil des jeux, on peut le résumer à un joueur extrêmement polyvalent et complet, en gros un poste 4 moderne qui sait à peu près tout faire sur un terrain et tout bien faire la plupart du temps.
Alors on y va, c'est parti. Il sait tout bien faire, t'es d'accord avec ça ? Il fait tout bien ?
Ouais, notamment défensivement, je trouve que défensivement c'est vraiment la qualité principale de son profil, on en reparlera, il est vraiment très complet de ce côté-là. Offensivement, il a pu peser toute la saison, un peu quelques défauts plus offensivement à gommer, mais ouais, très intéressant, joueur complet qui produit déjà à un très jeune âge.
Revenons sur son physique pour commencer. De mettre, ça dépend selon si on regarde la FIBA, tout ça.
Ça dépend avec chaussures, avec chaussettes, sans chaussettes.
Ouais.
Partons sur 2m6, 7.
Ouais, 2m, comme tu veux.
Allez, 2m7 pour 95 kilos.
Voilà.
Il a déjà pris en muscle parce qu'il était pas du tout à 95 kilos en début de saison, il était plus autour des 82, 83. C'est pas hyper dérangeant en Europe, on l'a vu, il performe. Mais une fois de l'autre côté de l'Atlantique, est-ce que ce physique-là très longiligne, ça peut être un problème ? Est-ce qu'il va forcément devoir prendre de la masse, pas énormément évidemment, sans que ce soit destructeur pour lui, mais assez rapidement pour pouvoir performer également du côté de la NBA, Thomas ?
Je pense que ça va venir avec l'âge, avec l'apprentissage. On sait, le régime NBA est très très aisé pour faire prendre du poids aux joueurs. Mais personnellement, au-delà du petit poids qu'il a pris cette année, je remarque de plus en plus une force fonctionnelle dans son jeu, une capacité à mieux encaisser le contact des deux côtés du terrain, que ce soit défensivement pour mieux défendre à l'intérieur ou offensivement pour récolter beaucoup de lancers francs. C'est les lancers francs, c'est peut-être l'une de ses qualités principales, il en récolte énormément, il a vraiment un taux de lancers francs assez démentiel pour un joueur de ce niveau. Donc vraiment je trouve qu'il utilise de mieux en mieux son physique et qu'il l'optimise et c'est vraiment la donnée principale. Ça sert à rien d'avoir un physique incroyable si on ne sait pas l'utiliser. Je trouve que Noah Essengue utilise chaque kilo et chaque centimètre parfaitement bien.
Il s'est préparé comme il faut pour la NBA.
Non, je suis complètement d'accord avec Thomas pour le coup. Après, c'est vrai que quand tu le regardes, quand tu regardes des images de lui, il fait vraiment très longiligne, mais voire un peu frêle sur certaines séquences. Et je pense que c'est pas un problème. On le dit à chaque fois dans chaque profil de prospect. C'est la prise de masse, la prise musculaire en arrivant en NBA, c'est quelque chose de très logique et ça se fait très naturellement et très bien. On peut compter sur la NBA pour ça. Mais ça va être important quand même, vu son poste, poste 4, il va quand même croiser en NBA de sacrés beaux bébés sur ce poste 4-là. Donc ouais, il va falloir rajouter un peu de kilos sur la carcasse, mais on n'est pas inquiet, ça le fera. Mais tu vois, quand tu vois son physique très frêle, enfin plutôt frêle, tu l'imagines croiser, justement, je parlais un peu de Banquero tout à l'heure, ou d'aller croiser un Ron Gordon, ou j'en sais rien.
Il serait un peu secoué.
Faut être solide. Ouais. Mais sinon, après, comme a dit Thomas, il a tout ce qu'il faut en magasin pour bien utiliser son corps et pour défendre intelligemment. Ça, il l'a déjà.
Au-delà de ce côté physique, c'est quoi son style de jeu, Thomas ?
Son style de jeu, offensivement, c'est un finisseur proche du cercle, un joueur de transition, de cut, de roll. Il attaque également plutôt bien les close-out. C'est un finisseur de bout de chaîne, principalement. Et j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un très très bon profil défensif qui brille par sa polyvalence et sa capacité à défendre vraiment tout type de profil. On va en reparler.
C'est ça, c'est qualité principale, polyvalence, défense.
Ouais, sa mobilité aussi, on en parle souvent. Quand on a un prospect qui est annoncé haut, c'est quelqu'un qui est mobile pour la NBA actuelle, c'est très important. En transition, du coup, son physique peut être très intéressant. Et voilà, après, dans les bémols, c'est vrai que pour scorer, c'est plus compliqué pour scorer de loin. Tu le vois, si on peut commencer un peu à aller sur les points faibles, son shoot extérieur et ses pourcentages, notamment à 3 points, sont pas très bons. On peut le dire, il tourne à entre 16-20% en fonction de si c'est en championnat ou en Coupe d'Europe. Ça, il va falloir le travailler parce que voilà, il va falloir qu'il ajoute ça à son arc. Enfin, c'est cette corde-là à son arc pour pouvoir vraiment exister sur la durée en NBA.
C'est ça sa principale amélioration.
Principale faiblesse, ouais, je pense que le shoot c'est sa principale faiblesse. On le sait en NBA, pour exister, faut vraiment vraiment shooter, notamment sur du contexte de playoff. On le voit quand on shoote pas, on est directement le maillon faible. On est le joueur qu'on laisse tirer, qu'on laisse punir la défense. Donc c'est vraiment important d'être capable de rentrer ses tirs, notamment en catch and shoot. Et au-delà de ça, moi j'aimerais bien le voir améliorer son handle pour qu'il arrive encore plus à transgresser les espaces. Pour l'instant, il arrive vraiment à attaquer des espaces assez ouverts. Donc avoir un dribble un peu plus solide, un peu plus bas. On le sait, il est très très haut. Il a vraiment un standing reach démentiel. Il a l'ange très haut. Donc c'est assez dur de dribbler bas pour lui. Et également prendre des décisions un peu plus rapides. On sait que la vitesse de sa précision n'est pas toujours un level NBA. Donc pour fonctionner et pour vraiment s'inscrire dans une attaque collective, ce serait vraiment important pour lui.
Il faut qu'il améliore la justesse de ses choix en attaque.
Ouais, on a quand même vu du mieux au fur et à mesure de la saison. Il y a notamment eu sur la fin de saison des cartons offensifs. On en reparlera juste après. Donc on l'a vu, mais de toute façon, quand les mecs ont cet âge-là, et encore une fois, c'est le deuxième plus jeune joueur de cette draft. Évidemment qu'en fait, quand tu regardes le fil de la saison, il a progressé de mois en mois. Moi, quand je le vois, je suis pas vraiment inquiet au niveau de ses choix. Justement, en fait, quand il arrive à scorer, tout en n'ayant pas le shoot extérieur très fiable. Donc en fait, tu sens que le mec sait dans quelle zone il peut aller scorer. Tu sais qu'il a conscience de comment scorer. Donc c'est déjà une preuve de QI basket et d'intelligence, quoi. Et
puis même quand il est en manque de réussite, on a l'impression qu'il est capable de s'adapter quand même, d'adapter son jeu. S'il n'arrive pas à marquer, il va faire en sorte de faire marquer parfois, ou plutôt de rentrer dans la raquette s'il n'arrive pas à l'extérieur. Cette capacité d'adaptation, c'est fort déjà à son âge.
C'est un joueur qui pèse toujours sur le match. On l'a dit défensivement. J'aimerais vraiment revenir sur ce point car on n'a pas assez parlé. C'est vraiment l'un des tout meilleurs profils défensifs de cette QV. Il y a des séquences qui m'ont vraiment choqué, notamment contre le Bayern Munich cette année, ou dans le même match, ou même dans le même carton, on l'a vu défendre Elias Harris à l'intérieur. On l'a vu suivre Andreas Hobbs dans les écrans et presser tout terrain à Carson Edwards. Donc il a vraiment une polyvalence défensive vraiment très très impressionnante. Il est capable de couper les lignes de passe, il est capable de défendre en low man, donc sur le pick and roll pour venir aider au cercle. Il est capable de venir en aide, il a vraiment une faculté à couvrir de l'espace assez impressionnante avec sa taille, sa mobilité, que c'est assez impressionnant. Et offensivement, il est capable de venir chercher du rebond, de poser les écrans, de finir au cercle. Il va énormément chercher de lancer, donc même s'il n'est pas en réussite à l'extérieur, il est capable de faire tomber les fautes. Donc non, on est sur un joueur d'impact. On le voit tout au long de la saison, à 18 ans, c'est assez impressionnant.
Je rebondis sur ce que tu disais, il l'a déclaré d'ailleurs vouloir continuer à travailler le plus possible pour pouvoir défendre à tous les postes. C'est quand même rare, un joueur qui peut défendre à tous les postes, on l'a déjà vu cette saison, mais s'il arrive à le faire en NBA, c'est exceptionnel.
Ouais, pour l'instant, on est plus sur, il peut défendre
4 sur 5.
Ouais, voilà, de poste 1 à 4. Ouais. On l'a dit au niveau de la masse, aller défendre sur les gros pivots en NBA, là pour l'instant, ça va être compliqué, mais c'est pas exclu qu'il en soit capable à l'avenir. Et c'est aussi très intéressant que ça soit un de ses objectifs affichés. On le sait, hein, la défense, c'est pas quelque chose de très sexy, c'est pas quelque chose qui excite beaucoup les jeunes joueurs. Lui, il en fait vraiment une priorité, un challenge, un objectif, et c'est extrêmement bien parce que je pense qu'il a aussi conscience que ça va être son ticket d'entrée aussi pour la NBA, pour aller avoir des grosses minutes dès ses premières saisons. Donc si défensivement il fait le boulot, on en parle souvent, on en a parlé avec Béringer, même sur les QV de draft avant, on a vu des mecs comme, c'est pas du tout le même poste, mais genre comme Bilal Koulibaly, qui a été chercher ses minutes et sa place dans la rotation grâce à son impact défensif. Essengue peut et doit miser là-dessus pour aller se gratter des minutes.
Et pour rebondir sur ça, on a un joueur qui au combine s'est comparé premièrement à un joueur comme Toumani Camara, donc je trouve que c'est très intéressant. On a souvent des joueurs qui se comparent à des Kevin Durant, à du Paul George au niveau des ailiers, et lui il sait que sa qualité principale, pardon, c'est sa défense. Il veut vraiment se focus sur ce point pour être le plus efficace possible en NBA. Donc je trouve que c'est une vraie belle preuve de maturité et de conscience de son profil.
Avis personnel, là, je vous demande un avis personnel comme ça. Cette mentalité-là, est-ce que ça vous plaît ou est-ce que vous préféreriez qu'il rentre dans le moule de la NBA à dire « moi, ce que je veux bosser, c'est le spacing, c'est le tir à trois points, c'est tout ça ».
Moi, ça me plaît hein, d'avoir un mec qui affiche la volonté de devenir un excellent défenseur et qui prend des mecs comme Toumani Camara comme modèle, parce que ça veut dire que t'as compris ce qu'était le basket, de comment arriver à durer en NBA. Après, j'ose espérer qu'il a conscience qu'il va falloir améliorer son shoot extérieur pour pouvoir faire du spacing. Mais ça, c'est pas parce qu'il ne le dit pas et qu'il ne le dit pas en premier dans les interviews qu'il a pas ça comme objectif. Donc moi, j'aime bien, franchement.
Ouais, de même, j'aime bien. Je trouve qu'il a toujours montré que c'était un leader, notamment par l'exemple sur le terrain. C'est un joueur que qu'emmène ses partenaires avec lui. Il a su monter petit à petit les échelons. On l'a vu, par exemple, il a fait 2-18 de suite. Au début, c'était un peu un role player. L'an passé, c'est devenu un vrai leader. Il a tourné à 18 points de moyenne l'année dernière en Pologne. Et donc, il a vraiment pu montrer que c'était un joueur fort, faire tomber les fautes, être vraiment ce guy dans l'équipe de France. Donc non, j'aime vraiment bien également son caractère sur le terrain.
T'as commencé à parler de ce caractère-là, sur et en dehors du terrain. On est quand même sur un joueur très expressif, très vocal, déjà leader à son âge quand même, Félix.
Ouais, c'est un peu un phénomène. C'est quelqu'un qui peut devenir quelqu'un de très attachant et qui peut dans la suite, toi, que le public français, les fans de basket vont pouvoir rapidement se prendre un peu de passion pour lui et s'attacher à lui parce que ouais, il a vraiment une personnalité, tu l'as dit, très vocale. On l'a vu aussi à nos confrères de l'équipe qui ont fait un super portrait de lui. Il est passionné par les dessins. Je crois de mémoire qu'il a même lui-même dessiné un tatouage sur le bras. C'est lui qui s'est dessiné le tatouage. Fait, ouais. Et d'ailleurs, sa passion pour le dessin, lui, il le raconte, ça en dit beaucoup de sa mentalité de compétiteur. En fait, il a commencé le dessin pour être meilleur que son frère, parce que son frère est un excellent dessinateur. Et il a raconté qu'il a fait la même chose pour le basket. Il a commencé le basket.
Il avait déjà fait ça pour le tennis. Oui. Il avait déjà fait ça pour le judo.
Exactement.
Avant.
À chaque fois, il veut devenir meilleur que son frère. Donc ça en dit très très long sur le côté compétiteur qu'est Noé Sengue.
Compétiteur et très bien encadré. Tu parlais de son frère, mais il bénéficie aussi de l'accompagnement de sa mère, qui a déjà dit dans ce même portrait, je crois, par l'équipe, qu'elle quitterait la France et son travail pour pouvoir le suivre aux États-Unis s'il était drafté, ce qui va arriver en juin prochain, évidemment. Et il bénéficie aussi de l'accompagnement d'un préparateur mental américain qui connaît très bien cette NBA-là et la draft et qui le prépare notamment à ce que pourraient lui demander les responsables de franchise en NBA, du genre qui est-ce que tu mettrais dans ton 5 majeur de Bundesliga pour savoir s'il se mettrait lui, pour savoir combien il mettrait de coéquipiers et comment il expliquerait les adversaires qu'il pourrait mettre dans ce 5 majeur-là. C'est important à son âge d'être accompagné à ce point-là, Thomas.
Ouais, on voit qu'il est très focus, un gros bosseur. C'est toujours des choses qu'on aime voir. On voit que l'aspect mental, dernièrement, ces dernières années, c'est vraiment de plus en plus mis en avant. Et voir un joueur qui s'exprime bien, qui est capable de comprendre son impact sur le jeu et l'impact qu'ont ses coéquipiers également sur les parties, c'est vraiment très très important. Et ça permet, et je pense que c'est très attrayant, je pense, pour les coachs et les scouts d'avoir un joueur comme ça dans leur franchise.
Félix.
Et c'est aussi un mec qui n'a pas froid aux yeux. Je ne sais pas si nos auditeurs se rappellent, ils l'ont peut-être vu brièvement passer ce nom-là en début de saison, parce qu'en fait, il a fait un match de pré-saison avec son équipe d'Ulm contre Portland, les Portland Blazers. et il a été juste monstrueux. Il a mis 20 points et 8 rebonds. En face, du coup, il y avait DeAndre Ayton, Scoot Henderson. C'était vraiment match de pré-saison à quelques semaines de la reprise NBA où il y avait tous les mecs de NBA qui étaient là. Donc, il a marqué les esprits. Et je trouve que ça en dit long sur sa mentalité et sur son mental. Tu vois que c'est un mec qui n'a pas froid aux yeux.
Bien sûr.
Et qui est capable de prendre la lumière quand il le faut et de ne pas trembler devant ça. Parce que quand tu es annoncé premier tour de draft en début de saison, que tu vas affronter avec ton équipe une franchise NBA et que tu sors un match à 20 points, 8 rebonds, ça veut dire qu'en fait, la pression,
tu la bois.
Tu la bois, voilà.
Excellent, faut le dire.
Faut le dire.
Avec tout ce qu'on dit là sur son profil, son style de jeu, son caractère également, comparons-le à un joueur NBA comme on le fait dans tous les épisodes sur cette draft NBA. Beaucoup le comparent à Nicolas Batum et il le dit, il en est fier, il est content de cette comparaison-là. Est-ce qu'on peut le comparer à Nicolas Batum et à qui est-ce qu'on peut le comparer d'autre, Thomas?
Ah, s'il arrive à gagner les qualités de Batum, à savoir le shoot et la capacité à faire vivre la balle et qu'il garde ce côté défensif et scoreur près du cercle, on va avoir un joueur assez démentiel en NBA. Donc, ce sera vraiment très, très bien pour lui. Personnellement, je pense que c'est plus pour un Toumani Camara, avant même qu'il se compare à lui au niveau du combat. C'est vraiment une comparaison que j'aimais au niveau des progrès offensifs assez lents, notamment au shoot et à la passe que Camara avait du côté de Dayton en NCAA. On peut penser également défensivement à un joueur comme Jaden McDaniels pour projeter également les gens d'un point de vue physique. C'est vraiment un morphotype qui leur semble vraiment assez proche.
Nicolas Batum ou pas Nicolas Batum, Félix?
Nicolas Batum, évidemment. J'en avais déjà parlé, Nicolas Batum, avec Noah Penda, qui est un peu dans cette polyvalence défensive et ce côté glue guy qui se ressemblait. Du coup, quand même, j'ai pas repris Nicolas Batum.
Bravo.
Merci. moi, je m'étais noté Herb Jones, qu'on a vu, excellent défenseur, qu'on a vu du côté de Nouvelle-Orléans avoir des gros progrès offensifs. Si jamais Noah Sengue pouvait avoir la même progression offensive que Herb Jones, on signe tout de suite.
Et si Noah Sengue fait figure de numéro 1 français à la prochaine draft, c'est qu'il performe déjà en Europe.
RMC Basket Time, le parcours du prospect.
Félix, c'est quoi son parcours à Noah Sengue?
Alors, il a commencé le basket à 11 ans avant de rapidement prendre son envol. Il a d'abord été au Pôle Espoir d'Orléans, d'où il est originaire, après 2 ans à l'INSEP, où il a impressionné par sa précocité. Alors qu'il avait à peine 16 ans, il nous sortait déjà des matchs à 20 points en National 1, donc le 3e échelon français. À 16 ans, justement, premier virage de sa carrière, il choisit Ulm en Allemagne, malgré des touches, tu en as un peu parlé, Kylian à l'ASVEL. Il y avait aussi Chalon-sur-Saône, Bourg-en-Bresse, il y avait aussi des touches en Espagne, aux États-Unis. Donc il a choisi Ulm et après une saison d'acclimatation chez les pros, il s'impose comme un leader de l'équipe allemande là cette saison 2024-2025. Ses stats, il est à plus de 12 points et 5 rebonds en Eurocup, donc qui est la deuxième Coupe d'Europe. Il a fait aussi des play-offs étincelants, il fait des play-offs étincelants en Allemagne depuis quelques semaines. Le 1er juin, donc là il y a quelques jours, il nous a sorti un très très gros match en demi-finale de play-off avec 22 points et 14 rebonds. Petit bonus avec une expérience internationale aussi, donc il est évidemment passé par les équipes de France jeunes et il a fêté ses deux premières sélections en équipe de France A en novembre dernier face à Chypre en qualif de l'Euro. Donc voilà, c'était pas mal déjà d'expérience pour Noah Sengue qui déjà cette année était un leader offensif de son équipe en Allemagne.
Ouais, il a un CV déjà long comme le bras, le gamin, être précoce comme ça, c'est impressionnant, non Thomas?
Ouais, une progression rapide également, on voit qu'il a vraiment sauté les étapes une par une, il est passé de la N1 à la D2 allemande, à cette année la première division, l'Eurocup, les playoffs, il enchaîne vraiment et c'est l'un des plus gros contributeurs de son équipe. Il a joué plus de 50 matchs déjà cette année. Franchement, pour un fin d'année 2006, c'est vraiment très, très impressionnant d'être aussi productif à un aussi jeune âge.
Ça t'impressionne, Félix?
Et c'est pour ça qu'il monte aussi beaucoup dans les mock drafts. C'est maintenant, tu l'as dit au tout début de l'épisode, les plus gros espoirs pour être drafté le plus haut possible chez les Français. Il a doublé Nolan Traoré au fur et à mesure de la saison, justement grâce à cette saison qui est exceptionnelle. Il faut quand même se rendre compte que là, à l'heure actuelle, il est encore en train de jouer. Il est sur la route pour aller potentiellement aller en finale des play-offs du championnat d'Allemagne. Donc potentiellement, ce gars-là, il arrête sa saison quelques jours avant la draft sur un titre de champion d'Allemagne, en étant une des premières options de son équipe. Il a joué aussi là en quart de finale des play-offs allemandes contre l'Alba Berlin, qui est une formation d'Euroleague. Il a performé, son équipe Ulm a battu l'Alba Berlin, qui était lanterne rouge d'Euroleague. Mais...
Sweepé même.
Ouais, mais c'était lanterne rouge d'Euroleague, mais oui, quand même une équipe d'Euroleague. Donc c'est, faut quand même, ça situe un petit peu l'équipe. Donc non, sa saison, elle est extraordinaire. Et c'est pour ça qu'il a gagné autant de place dans les projections à la draft. Quoi.
Revenons un petit peu en arrière. Ce choix, quand en national, tu montres ce qu'il a réussi à montrer. Quand tu sors du Pôle France avec un an d'avance et que, tu le disais tout à l'heure, l'ASVEL ou la NCAA ou Valence te fait les yeux doux. Tu choisis de rejoindre Ulm en Allemagne. Qu'est-ce qui peut expliquer ce choix, Thomas ?
Je pense vraiment la filière française du côté d'Ulm, avec Kylian Hayes, Pacom Dadiès et ces dernières années. Je pense que ça a vraiment beaucoup pesé dans le choix des Ingers. Il a pu prendre son temps également avec une saison d'adaptation l'an passé en deuxième division allemande. Et franchement, maintenant, on peut dire que c'est une réussite. C'est toujours plus facile de juger après, mais non, franchement, un bon choix de sa part, et là, il va faire un gros pic, donc non, vraiment, bonne décision.
Est-ce que Ulm se mue un petit peu en une véritable pépinière de talent, comme on a pu le voir, par exemple, les joueurs qui vont en Australie, ou est-ce que ça peut être un club référence comme ça, où tous les jeunes talents peuvent aller, je sais qu'ils ont piqué un jeune au Real Madrid aussi l'année dernière, ça peut être ça pour Ulm ?
Bah clairement, parce qu'en plus, à chaque fois, les jeunes joueurs disent qu'ils sont séduits par le discours, par les infrastructures, les installations, où ils se sentent aussi qu'ils vont être au centre du projet, et c'est pas que des discours, ça se vérifie dans les faits, et je pense qu'en fait, plus ça va, et plus les exemples vont pousser les futurs pépites à aller là-bas, parce qu'en fait, là, quand tu vois la trajectoire de Noah Essengue, s'il est drafté très très haut là, à la fin du mois, et bah, en fait, les prochains prospects français, ils vont encore regarder Ulm d'une autre manière, et de se dire, bah, en fait, moi aussi, je veux ça. Kylian Hayes, ça avait bien fonctionné pour le choix, le pic de draft, parce que voilà, il a été drafté très haut, il était septième, ouais. Et bon, il n'a pas eu la carrière après escomptée pour l'instant en NBA,
son
choix était le bon, il avait quand même été mis en valeur pour être drafté top 10, donc non, c'est... Et ouais, Ulm, ça peut faire du mal au club français, parce que nous, ça ne nous arrange pas complètement de perdre nos pépites et de les voir partir en championnat d'Allemagne, mais bravo à Ulm, parce qu'en fait, ils montrent que c'est impeccable ce qu'ils font.
Tu parles des clubs français, est-ce que c'est pas un désaveu pour l'ASVEL qui lui faisait des pieds et des mains pour qu'il vienne et qu'il signe pro, d'autant plus quand on sait que l'ASVEL perd de plus en plus de pépites ces dernières années, on l'a vu avec Wemby qui a décidé de quitter le club pour aller au Metropolitan juste avant sa draft, est-ce que c'est pas un désaveu pour Lyon-Villeurbanne?
C'est pas un désaveu, on en avait parlé dans un autre épisode, il me semble que c'était avec sur Nolan Traoré. En fait, c'est aussi logique de voir tous ces Français faire ces choix-là. Il y a eu Wemby, il y a eu Rizaché qui avait fait le choix de Bourg-en-Bresse justement pour avoir du temps de jeu. En fait, là où l'ASVEL fait un petit peu peur entre guillemets aux prospects français, c'est qu'en fait tu sais que tu vas avoir très peu de place pour t'exprimer, parce que c'est une formation qui joue l'Euroleague, qui a des grosses ambitions sportives, et t'as pas le temps pour développer un jeune et le mettre tout en haut au centre du projet. On avait le même exemple avec Noah Penda, qui pour le coup, lui, qui n'est pas parti en Allemagne, qui est resté en France, qui est resté au Mans dans une très bonne équipe du championnat de France, et qui a eu un rôle très important, et qui, on le voit, ça lui a permis d'être projeté au premier tour. Idem pour Nolan Traoré, qui était à Saint-Quentin, dans une équipe un peu comme ça, une bonne équipe de Betclic Elite, mais c'est pas, en fait, l'ASVEL, mais comme Paris ou comme Monaco
bien sûr.
C'est pas des équipes où un jeune de 18 ans peut s'exprimer, donc en fait c'est logique, c'est même pas de leur faute à l'ASVEL, tu vois, j'ai envie de leur dire.
Mais c'est regrettable ?
Non, même pas, parce qu'en fait, ce qu'on veut, nous, pour nos pépites françaises, c'est qu'elles soient exposées, qu'elles jouent et qu'elles se développent.
Ouais, mais ce qu'on voudrait aussi, c'est que les clubs français se développent en termes de formation et que les plus grosses écuries puissent aussi, tu vois ce que je veux dire, on peut le voir de l'œil inverse.
Ouais, mais en fait, tant qu'elle reste, c'est un peu plus regrettable pour Noah Essengue ou comme Kylian Hayes avant, qui s'en va pour le championnat allemand. Mais tant que ça reste dans notre championnat, nous, en fait, le championnat en profite. Un Zachary Rizaché l'année dernière qui est élu meilleur jeune de Betclic Elite, il est parti du côté de Bourg-en-Bresse parce qu'il n'avait pas la place pour s'exprimer à l'ASVEL. Et en fait, ça a quand même profité au rayonnement du championnat de France. Donc pour moi, c'est pas un problème.
D'accord avec ça?
Ouais, je suis plutôt d'accord avec Félix. Je pense que vraiment la meilleure solution, c'est un peu l'entre-deux, aller dans des clubs un peu intermédiaires au niveau français, ça permet de rapporter une exposition, comme on l'a dit, sur du Rizaché, sur du Penda. Penda qui a notamment fait ses gammes en Pro B, ça lui a permis de prendre le temps et après être plus exposé du côté du Mans. Donc je pense que c'est vraiment le compromis parfait pour le développement des prospects d'un côté et le rayonnement du basket français de l'autre.
T'en parlais tout à l'heure, ce match de pré-saison face à Portland. 20 points, 8 rebonds, 3 passes. Il a déclaré à la fin du match, Scoot Anderson et DeAndre Ayton sont venus me checker et ils m'ont dit franchement, bien joué. Continue comme ça, tu peux aller loin. Ce sont des gars que tu vois à la télé avant et là tu les vois dans la vraie vie te dire continue comme ça. C'est quelque chose qui me touche quand même. Ça aussi, ça marque les scouts NBA.
Ouais, je pense que match bonus, un peu pour lui, on n'attend pas grand-chose. Il a 17 ans, il joue contre des pros NBA. S'il avait mis 2 points et qu'il était sorti pour 4 fautes au bout de 13 minutes, on n'aurait pas tenu rigueur. Il sort un gros match, c'est forcément positif, on peut le voir de près, notamment face aux athlètes NBA, c'est toujours très intéressant de voir ça dans ce genre de contexte. Donc non, un petit point bonus pour lui.
Et puis c'est la force de Ulm, justement, d'avoir cette ressource-là en termes de jeunes talents à montrer et à mettre en avant face à la NBA et de pouvoir organiser ce genre d'événement.
Je pense que ce petit match bonus, comme tu dis Thomas, ça l'a boosté pour la saison. C'est pas ça qui lui a permis de faire cette saison-là, mais je pense que c'est vraiment le petit supplément de confiance qui te met bien, quoi. Tu vois, genre, quand t'es capable de faire ça au tout début de la saison, je crois que c'était un match...
Octobre 2024.
Ouais, c'était en octobre. En fait, après, t'étais boosté et je pense que après, tu débarques pour les matchs de championnat d'Allemagne. C'était pas mal, quoi, au niveau de confiance. Tu te dis, tiens, les gars, j'ai scoré en face de DeAndre Ayton, de Scoot Anderson. Tu vois, genre, c'était très bien pour le petit boost de confiance.
Est toujours important de performer sur le sol américain. On se rappelle de Wemby face à Scoot Anderson, ça avait vraiment fait le tour de la planète basket. Ça permet vraiment de ressentir cette pression et de montrer qu'on est là et qu'on est présent toute l'année.
Et puis juste après, tu reçois un coup de fil de Freddy Fautoux. Et puis première sélection en équipe de France A pour lui. Quand on voit le vivier français au-delà de Noah Essengue, on peut quand même se dire que l'équipe de France, elle a de beaux jours devant elle quand même.
Ah bah clairement, après... Il faut du temps avant que les mecs arrivent en équipe de France.
Mais là, quand on parle de toutes les pépites au fil des épisodes, on a l'impression que si on les anime tous un par un dans l'équipe, on a quand même une belle génération.
Surtout quand tu vois les drafts qu'il y a eu avant. L'année dernière, t'as trois mecs dans le top 6. L'année d'avant, t'as Wemby et t'as Koulibaly. Donc, ouais, ça a fait un sacré casse-tête pour Freddy Fautoux. Mais
on le plaint pas.
C'est mieux dans ce sens-là. C'est vraiment mieux dans ce sens-là d'avoir autant d'options. Et autant de mecs polyvalents, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on a fait les profils des joueurs dans cette série de podcasts, à chaque fois quasiment, le mot polyvalence rentrait tout de suite dans notre discours. Donc, t'as des mecs qui peuvent avoir tellement d'options, jouer sur... Enfin, donc non, c'est royal. Pour l'équipe de France, c'est royal. Pour le rayonnement du basket hexagonal aux États-Unis, en NBA, c'est parfait. Voilà, on a très hâte. Là, cette année, c'est très dense, c'est très homogène, le vivier français. On va pas, sûrement pas aller craquer un top 5 ou même un top 10. Ça serait quand même déjà une super surprise. Mais on a quand même le nombre de mecs qui sont annoncés entre la 15e et la 30e place. Potentiellement, en fait, les 5 gars là, qu'on a fait, donc Nolan Traoré, Noah Penda, Essengue, Béringer et Maxime Reynaud, ces 5-là peuvent être entre la 15e et la 30e place. C'est quand même incroyable.
Il y a de quoi être hypé.
Ouais, polyvalence, défense, on parle des Inquiets, Rizaché, Wemby, Sarr, Bilal. On a vraiment un vivier assez incroyable de ce côté-là du terrain. Donc la jeunesse va prendre le pouvoir petit à petit en équipe de France. Et hâte de voir comment la mayonnaise va prendre. Ça peut être vraiment très très intéressant à regarder dans quelques années.
Cette saison avec Ulm, il a fait une saison complète, Noah Essengue, pour faire un petit tour d'horizon de sa saison, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe.
Saison pleine dans le deuxième de Bundesliga à une victoire du Bayern. Franchement, c'est très très impressionnant. Ils ont battu Bayern cette année déjà. Ils vont peut-être les affronter en finale. Ça pourrait être, on en a déjà parlé, un point d'apothéose sur sa saison. Donc franchement, saison incroyable pour lui. Grosse productivité au fil des matchs. Là, il sort de 2 matchs à plus de 20 points sur ses 5 derniers en play-off. Donc non, c'est très très grosse saison pour lui.
En saison régulière, c'était 30 matchs joués pour 23 minutes de moyenne, 9,7 points, 4,5 rebonds. Juste, on l'a dit tout à l'heure, les pourcentages au tir qui sont pas fameux, 47% au tir, 24% à 3 points. Ça va un peu mieux au niveau des lancers francs avec 70%, lui qui en provoque énormément. Et puis là, les playoffs. Les playoffs, Noah Essengue, on a l'impression que c'est sa révélation, c'est là où il va encore épater les scouts et monter dans les mock drafts. Vous l'avez dit, face à l'Alba Berlin, premier match, il fait 14 points, 7 rebonds. Troisième match, il fait 21 points, 4 rebonds avec 13 sur 13 au lancer. Que demander de plus? En fait, on ne pouvait pas espérer mieux à quelques jours, quelques semaines de la draft pour lui.
On le répète à chaque fois, on sait que c'est très important pour les internationaux de performer sur les dernières semaines. Ça permet de gagner beaucoup d'exposition. Tous les yeux sont rivés sur eux, donc vraiment très important et très bon moment pour lui de performer.
Ouais, ça va être super. Je l'ai dit tout à l'heure, il va jouer jusqu'à quelques jours avant la draft. Et donc, en fait, chaque match Et chaque sortie jusqu'à la draft, c'est une occasion pour lui de marquer les esprits, d'encore monter dans les projections. Donc non, c'est génial. On espère juste qu'il n'y a pas de petits bobos, même sans parler de graves blessures, mais ça serait quand même un petit peu embêtant d'avoir un petit pépin musculaire, ouais. Un truc comme ça. Ça pourrait un peu déchauffer les scouts NBA. Mais non, c'est là, il a tout le mois de juin là pour encore nous régaler. S'il peut aller nous chercher une finale de championnat d'Allemagne pour aller encore une plus grande scène et s'exprimer et encore plus marquer les esprits, c'est top. Et pourquoi pas, allez, soyons fous, un top 10 quoi, de draft, tu vois.
On peut s'hyper avec un top 10.
Ouais, je pense qu'on peut s'hyper avec un top 10. Je pense qu'il sera au moins pris loterie vu comment il performe actuellement et vu son profil. Et c'est pas juste les performances récentes. Hein. C'est tout au long de la saison et ces dernières années. On regarde vraiment très très loin quand on suit un prospect. Je trouve qu'il a vraiment un profil très intéressant. On a parlé de sa défense assez impressionnante. Offensivement, il arrive à peser. Il y a des pistes d'amélioration. Il progresse plutôt bien au tir ces dernières années. Il a vraiment beaucoup progressé au lancer. Il tire de plus en plus à 3 points. Donc non, vraiment, je pense qu'il peut être capable de craquer ce top 10. Ouais.
ESPN le place 9e dans son dernier mock draft sur les 100 meilleurs prospects 2025. Comme toujours, on va conclure avec cette petite question. On va se projeter, on va imaginer Noah Esenge en NBA. Il faut qu'il aille dans quelle franchise pour performer tout de suite? Et je commence par toi cette fois, Thomas.
Toronto aime bien les joueurs très longs, un peu qui manquent de shoot, clairement, c'est un peu leur baba. Donc potentiellement chez les Raptors, en 9e position, tu viens de le dire, c'est sa place chez ESPN. Après, pourquoi pas le voir en backup de Toumani Kamara du côté des Blazers, ça pourrait être intéressant. Mais moi, j'aime bien les Bulls également, à côté d'un Matas Buzilis qui apporte plus de shoot, un peu moins de défense. Ça pourrait créer un fond de court très très grand et assez polyvalent des deux côtés du terrain.
Félix.
Moi, j'aimerais bien le voir directement pouvoir potentiellement gratter un poste dans le 5 majeur d'ici la fin de saison. Donc en fait, c'est des bonnes destinations ce que tu dis, Thomas, mais en fait c'est quand même souvent c'est bouché un peu à son poste. Et vu que moi j'ai envie de rêver grand pour Noah Esenge, je me l'étais imaginé Atlanta, qui a un pic en 13e position. Parce qu'à Atlanta, je pense qu'il y a une place au poste 4. Il n'y a pas de poste 4 clair. Il y a Gay, c'est des mecs que tu peux facilement déloger au fur et à mesure de la saison. Je dis pas dès le début de saison, mais tu vois, genre quand on se projette à la fin février-mars, potentiellement glisser vers ce 5 majeur. Donc Atlanta en 13e place, j'aime bien. Et aussi, ça pourrait être pas mal, la petite connexion avec Zachary Risaché. Nous, fans
on
de basket français, dès qu'on peut mutualiser les matchs qu'on regarde en pleine nuit, c'est pas mal.
Si
quoi,
on pouvait faire une franchise avec que des Français.
C'est ça.
Mon Dieu,
qu'on serait. On peut en faire deux, allez. Une à l'Est, une à l'Ouest, tu vois, soyons fous.
Comme ça, elles se rencontrent après et tout en finale.
Une à Atlanta et une à San Antonio, et voilà, et tout le monde est content.
Allez, faisons ça. Merci, messieurs, pour cet épisode. C'était le dernier déjà de cette série de 5 épisodes sur les Français qui se présentent à la draft NBA. 5 très beaux prospects. Est-ce que Noah Esenge sera dans le top 10? Est-ce qu'il sera le premier Français à être sélectionné à la draft NBA? Rendez-vous le 25 juin prochain pour suivre cette draft. En attendant, allez écouter évidemment les autres portraits, les autres épisodes de Basket Time. Allez checker le taf évidemment d'envergure. Je vous mets toutes les informations dans la description et on se donne rendez-vous très vite pour de nouveaux podcasts Basket Time.
RMC Basket Time.